Génération NC devant la presse ce matin, les élus du parti ont fait le tour des grands sujets d'actualité. Ils appellent notamment à former une majorité avec l'UNI pour garantir la stabilité des institutions. Un beau succès pour le premier marché de l'année de Mamie ce matin à Farino. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées sur l'esplanade de la mairie. Vive tension diplomatique entre Paris et Alger. Le ministère algérien des Affaires étrangères a justifié son choix de refuser l'entrée sur son territoire de l'influenceur Doualem. Mayotte de nouveau menacée par un cyclone. L'alerte rouge cyclonique a été déclenchée. La population se prépare au passage de Dikalidi, un mois après le passage de Chido. Le sport et le tennis, c'est le coup d'envoi de l'Open d'Australie. Première manche du Grand Chelem. 7 Français seront sur les courts de Melbourne pour la première journée de compétition. Et puis rugby et carton plein pour les clubs français engagés en Champions Cup. Toulouse, Bordeaux-Bègles, Castres et le Stade français se sont imposés. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal à la une de l'actualité, la politique en Nouvelle-Calédonie. Génération NC s'exprimait face à la presse en milieu de matinée. En ce début d'année, le parti de Nicolas Metzdorf souhaitait faire un point global sur les perspectives que ses élus défendront en 2025 pour le territoire, Michael Juneski.
Et tout d'abord, dans l'actualité récente, Génération NC salue l'élection d'Alcide Ponga à la présidence du gouvernement, tout en rappelant que le calendrier va contraindre ce nouvel exécutif à mener des réformes dans un temps très court. Génération NC qui appelle, dans un premier temps, à former une majorité au gouvernement et au Congrès pour stabiliser le fonctionnement des institutions afin de pouvoir travailler sur les réformes nécessaires en vue de redresser la Nouvelle-Calédonie après la crise de mai 2024. Nicolas Metzdorf.
On se félicite de l'élection d'Alcide Ponga à la présidence du gouvernement, mais ça va être une présidence très courte puisque les élections provinciales sont prévues au plus tard en novembre 2025 et qu'il va falloir mener énormément de réformes. Donc on aura besoin de s'asseoir sur une majorité stable et forte à la fois au gouvernement et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et nous, on dit que cette majorité, elle ne peut pas se faire avec l'Union calédonienne. Cette majorité, elle doit se reposer sur l'UNI, qui est un parti politique indépendantiste modéré, qui n'a pas, participé aux émeutes du 13 mai, qui les a dénoncées, et deux, qui a travaillé étroitement avec nos membres du gouvernement sur le PS2R, le plan de relance de l'économie calédonienne. Et donc nous, on dit qu'il faut travailler avec eux, plutôt qu'avec l'UC et la CCRT.
Et Génération NC appelle donc à désigner un membre du gouvernement issu de l'UNI comme vice-président de l'exécutif. Nicolas Metzdorf parle d'indépendantiste démocrate avec qui le dialogue est possible dans un espace d'échange. A l'inverse, toujours selon Nicolas Metzdorf, il n'y a pas d'entente possible avec l'UC de par ses liens directs avec la CCAT et il n'est pas question de chercher prochainement à réhabiliter les membres de la CCAT, déclare le président de Génération NC.
Comme nous, on l'a toujours dit, il y a deux fléau qui gangrène la Nouvelle-Calédonie, c'est un, la violence, et deux, le racisme. Et donc tous ceux qui ont la violence et le racisme comme idéologie politique, comme combat politique et comme façon de s'exprimer, doivent être marginalisés, écartés de toutes les discussions politiques et même condamnés par la justice. Donc pour nous, il est hors de question que la CCAT intervienne de quelque manière que ce soit dans les négociations politiques. C'est plutôt à la justice de s'en charger.
Quoi qu'il en soit, Génération NC veut aussi porter le débat au plus vite sur la réalité de ce que vivent les Calédoniens aujourd'hui, à commencer par le constat que l'impact de la crise de 2024 est grave et que les conséquences vont se faire encore ressentir très largement pour la population. Il faut donc s'adapter et élaborer un nouveau modèle. À court terme, Génération NC le dit, l'assistanat ne sera tout simplement plus possible. Nina Julier, porte-parole de Génération NC.
C'est une urgence dans laquelle nous met la CCAT puisqu'elle a détruit le pays, elle a détruit notre économie et maintenant nous devons de nous adapter à cette situation malheureusement. Et il va y avoir des conséquences importantes sur la vie des Calédoniens, sur notre système de solidarité, sur donc les aides sociales, sur l'accompagnement des plus fragiles. Et il faut qu'on trouve un système dans lequel nous ne sommes pas les mendiants de l'État. Et nous sommes en capacité de produire de la richesse. Et aujourd'hui, les seuls qui sont capables de produire de la richesse, ce sont nos entreprises. Il faut donc que dans ce modèle, on puisse mettre au centre les entreprises calédoniennes et le travail. Et il s'agit de repenser totalement notre façon de voir les choses. Il faut renverser la table, libérer complètement notre économie pour que ces entreprises puisse de nouveau embaucher et créer du travail et donc de la richesse. Ça va prendre du temps, mais c'est la seule solution qui nous permettra de nouveau financer nos systèmes de solidarité, les aides pour les gens, etc. Il faut que les entreprises bossent.
Élaborer un modèle pour redresser la Nouvelle-Calédonie avec les réformes nécessaires à tous les niveaux et s'appuyer sur les atouts que possède encore le territoire. On retrouve Nina Julier.
La Nouvelle-Calédonie conserve de beaux atouts. Elle a une vaste zone économique, maritime. Elle a également encore son nickel. Elle a également sa biodiversité exceptionnelle. Et donc, il y a des opportunités à saisir, notamment au travers de sa place stratégique dans la région. Nous avons des pays voisins qui sont en pleine expansion. Il faut qu'on crée des liens plus forts en matière économique avec l'Australie notamment, qui est le 10e pays en matière de PIB par habitant. Il faut qu'on profite de son expansion, qu'on puisse lui proposer des échanges économiques, qu'on puisse lui proposer des entreprises innovantes pour attirer évidemment de nouvelles innovations, de nouvelles entreprises. C'est vraiment une opportunité à saisir dans la région. Une réglementation plus souple en matière de communication avec l'Australie. Et puis il y a également le nickel. Il ne faut pas l'oublier, on a un quart des richesses mondiales de nickel. Comme les entreprises métallurgiques ne fonctionnent pas ou très peu aujourd'hui, mis à part la SLN, il faut évidemment qu'on réfléchisse à comment utiliser notre minerai brut à faciliter son exportation. Ce n'était pas quelque chose qui était défendu par Génération jusqu'à présent, mais encore une fois, la CCAT nous met au pied du mur et nous devons réfléchir à utiliser ce minerai brut parce que des milliers d'emplois en dépendent.
Nina Julier, porte-parole de Génération NC. Concernant les discussions sur l'avenir institutionnel, le parti rappelle aussi que les partenaires doivent se remettre au plus vite autour de la table. Le calendrier l'impose. Nicolas Metzdorf.
Le calendrier est très serré sur l'avenir institutionnel parce que si on doit tenir les élections en novembre 2025, c'est ce qui a été prévu par le Conseil constitutionnel, il faut qu'on trouve un accord politique au plus tard au 31 mars. Parce que ça voudrait dire qu'une fois qu'on a trouvé un accord politique, il faut refaire une modification de la Constitution, donc ça dit Assemblée nationale, Sénat, Congrès de Versailles. Derrière, une loi organique d'application de la Constitution, donc c'est re-Assemblée, re-Sénat. Derrière, éventuellement, la sollicitation du vote des Calédoniens pour valider cet accord. Et derrière, le délai pour organiser des élections dans un contexte optimal. Donc ça nous donne le 31 mars au plus tard pour trouver l'accord politique.
Nicolas Metzdorf, également député de la première circonscription, qui décolle de nouveau pour Paris ce soir afin de participer aux débats nationaux concernant le budget de l'État. Il rappelle par ailleurs qu'il a adressé un courrier à Manuel Valls, le nouveau ministre des Outre-mer, afin d'étudier dans quelle mesure la réserve sanitaire pourrait intervenir à nouveau en Calédonie face au manque de soignants qui place la population en situation grave. Il a également rappelé à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, que la libre circulation n'est toujours pas possible au Mont d'Or sur la RP1. L'axe routier qui dessert le Mont d'Or Sud fonctionne toujours comme une route à horaires.
Le premier marché de mamie de l'année à Farino. Les habitués n'ont pas loupé ce rendez-vous donné tous les deuxièmes dimanches du mois. À la faveur d'une période calme des vacances scolaires, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement, Charlotte Coulson.
Et oui, c'est un rendez-vous incontournable de la brousse. Le marché de mamie réunit chaque mois de nombreux producteurs locaux. Et c'était une reprise en douceur ce matin. Certains exposants profitent encore des vacances, mais cela n'a pas empêché les visiteurs de profiter de la balade. Au contraire, la tranquillité du marché en a attiré plus d'un. Un cadre idéal pour débuter l'année 2025, selon Ghislaine Arline, l'organisatrice du marché.
Donc c'est la grande reprise pour 2025 là, donc il y a pas mal de stands heureusement et puis beaucoup de produits. Donc oui, je suis contente parce que depuis ce matin ça n'arrête pas, hein. Il y a du monde, des gens, je savais que généralement en janvier, en février, il y a beaucoup de gens en vacances dans la région et les gens les week-ends ils sortent aussi, il y a le parc des Grandes Fougères, il y a pas mal de choses à faire dans cette région. Donc voilà, on a beaucoup de monde, beaucoup de passages depuis ce matin, tout le monde est heureux, il fait beau, il y a un bon petit vent frais, il y a encore les flamboyants en fleurs, donc c'est très sympa, et puis tout le monde se souhaite les vœux et tout, donc c'est très sympa.
Et les mains dans les poches ou remplies de fruits et légumes, les visiteurs sont venus nombreux faire leurs courses ou se balader en famille. Certains viennent de Farino, d'autres d'un peu plus loin, mais ils n'ont pas hésité à faire le déplacement ce matin.
On s'est levé tôt ce matin pour venir exprès, comme c'est le premier marché de l'année. Donc on venait venir voir ce qu'il y a de nouveautés. Mais c'est surtout que moi je suis à la recherche des produits qui se font rares aussi. Je suis contente de venir au marché de Farino parce que c'est ce qu'on ne trouve pas à nous-mêmes.
Je viens chaque mois ici, je viens parce qu'en fait c'est dans la nature. Et je viens chiner, voir les produits frais, les produits locaux, des plantes surtout. Et les produits fabriqués localement, quoi.
Oui, nous habitons ici.
On vient régulièrement.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce marché ?
La diversité, mais surtout les produits, salade de poulpe, là. Les saucissons de cerf, ils sont très bons. La diversité dans les plantes. Puis il est tranquille, ce marché. On aime beaucoup ici.
Et voilà les visiteurs, contents de trouver toujours autant de diversité dans les produits proposés. Et parmi les producteurs, certains sont là depuis plus de 20 ans, comme cette maman de la foi. Après tant d'années, c'est toujours un plaisir pour elle de se retrouver au marché le dimanche.
Ça va faire depuis l'ouverture du marché de farine. Ben oui, on est venu faire le marché avec notre maman. On a l'âge de 10-11 ans. Voilà, puis là, maman, ça y est, elle est à la maison. C'est nous qui prenons la relève du marché. Et la plupart, c'est des clients qui nous connaissent. Ils viennent acheter ce qu'ils ont pris. Ils reviennent chercher encore. Et la plupart des légumes que j'ai, c'est de mon champ, jardin. J'ai quelques plantes, des arbres fruitiers, que c'est moi-même qui les plante.
Mais ça vous plaît toujours autant, après tout ce temps ?
Ben oui. Communiquer avec les gens, la rencontre, retrouver des copines, des amis, des colds, c'est surtout ça.
Et le marché de Farino, c'est tous les deuxièmes dimanches du mois. Le prochain rendez-vous est donné le 9 février.
Venons-en à l'actualité dans la région Pacifique. En Australie, des attaques de synagogues et d'habitations appartenant à des Australiens de confession juive se poursuivent à Sydney, où elles sont même devenues quotidiennes. Correspondant signé Jean-Pierre Zajac.
Tôt ce matin, le mur d'enceinte d'une synagogue de Sydney a été couvert de croix gammées, après quoi les individus qui en étaient responsables ont tenté d'incendier le bâtiment. La police du New South Wales a indiqué qu'elle enquête également sur le vandalisme d'une maison, de sa voiture et d'une caravane. Ces incidents ont eu lieu 24 heures après que des slogans antisémites ont été tagués sur une autre synagogue de Sydney. Semblables incidents s'étaient également produits la veille. Le président de la commission anti-diffamation, le docteur Abramovich, a qualifié ces attaques d'outrages impardonnables et a ajouté que, je cite, « ces croix gammées ne sont pas que des symboles, ce sont des balles qui visent l'âme de la communauté juive. Ces actes sont épouvantables et monstrueux », a quant à lui estimé le Premier ministre du New South Wales, Chris Minns. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est midi et 13 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Des problèmes de termites de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termite. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Lionel Sabot.
Et jamais depuis les années 60, les relations entre Paris et Alger n'ont été aussi tendues. Le bras de fer diplomatique s'est encore intensifié ces dernières heures. Hier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a accusé l'Algérie de vouloir humilier la France en refusant d'accepter un ressortissant algérien expulsé. Cette nuit pour nous, le ministère des Affaires étrangères algérien a réagi en rejetant formellement les accusations de Paris. C'est le cas de l'influenceur Doualem qui a causé ces tensions entre Paris et Alger. Doualem qui n'est pas le seul dans le viseur de la justice française. En effet, on parle désormais de l'influenceuse Sophia Belhamane. Elle a été déférée cette nuit pour nous et placée sous contrôle judiciaire. Sophia Belhamane comparaîtra le 18 mars prochain devant le tribunal correctionnel de Lyon pour notamment menace de mort. Noémie Loisel pour Europe 1.
Sophia Belhamane est aussi interdite de quitter le territoire français et d'utiliser ses comptes sur les réseaux sociaux. Cette influenceuse âgée d'une cinquantaine d'années est suivie par plus de 300 000 personnes sur TikTok et Facebook. Elle devra s'expliquer pour plusieurs vidéos publiées entre 2023 et début 2025.
J'espère qu'ils vont te tuer, qu'ils vont t'attraper, qu'ils vont te tuer.
Notamment une vidéo partagée en septembre lorsqu'elle insulte en direct une autre femme.
Mais est-ce que
l'influenceuse est déjà connue de la justice en 2001 lors du match de football France-Algérie. Elle a été la première personne à s'introduire sur la pelouse du Stade de France en brandissant un drapeau algérien avant d'être suivie par des centaines de supporters. Elle avait été condamnée pour ces faits à 7 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'interdiction de stade. Plus récemment, l'influenceuse avait de nouveau fait parler d'elle en janvier 2024 en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'une de ses vidéos, elle avait tenu des propos ouvertement racistes envers la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition. Elle affirmait « Il faut que les Algériens sachent comment ils vivent ici parce qu'ici, ils vivent dans la misère à l'ère préhistorique ». Sofia Benlemane avait été expulsée de Côte d'Ivoire après ses déclarations.
Noémie Loisel, la correspondante d'Europe 1 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Mayotte de nouveau menacée par un cyclone. L'alerte rouge cyclonique a été déclenchée très tôt ce matin pour nous, 6 heures hors de Nouméa. Un peu plus d'un mois après le passage du cyclone Chido, la population se prépare maintenant au passage du cyclone Dakeledi. Antoine Delbeau pour Europe 1.
Les Mahorais sont complètement barricadés avec interdiction totale de sortir de chez eux, car le cyclone Dakeledi et ses vents violents foncent sur l'archipel et devraient durement frapper Mayotte dans la nuit. Alors forcément, François Nouchet, professeur dans une école locale, se prépare à ne pas beaucoup dormir.
Le préfet nous a dit que les vents sont à 130 km à l'heure. Donc ça fonce droit sur nous, hein. Ça va arriver à 2h du matin. On espère que ça sera moins par rapport à Chido. Là maintenant, on va passer une nuit blanche à surveiller tous les coins où est-ce que l'eau va rentrer. On se fait pas passer une nuit blanche jusqu'au matin. Hein.
Et comme lui, beaucoup de Mahorais vont veiller cette nuit pour surveiller les moindres dégâts qui pourraient apparaître sur leur maison. Il faut dire que l'archipel peine encore à se remettre du passage dévastateur du cyclone Chido il y a un mois. Les débris sont légion sur les routes, les habitations sont encore loin d'être toutes reconstruites. Et selon le météorologue Patrick Marlière, les pluies diluviennes attendues dans la nuit pourraient encore aggraver la situation.
Ça va donner des pluies extrêmement importantes. On attend plus de 150 voire 200 litres par mètre carré. Donc ce sont des pluies torrentielles qui vont entraîner tout ce qui traîne, les arbres, les dégâts de la tempête précédente. Donc là, il n'y a pas d'hésitation, il faut être extrêmement vigilant.
Prudence extrême donc. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau annonce de son côté ce soir que les services de secours se tiennent prêts à intervenir dès que la tempête sera passée. L'inquiétude est grande, notamment concernant le réseau électrique de l'île, car depuis le passage du cyclone Chido, beaucoup de Mahorais ont encore du mal à se connecter au réseau.
Antoine Delbeau du service international d'Europe 1. En métropole, les obsèques de Jean-Marie Le Pen la nuit dernière pour nous en Bretagne. Le fondateur du Front National, devenu Rassemblement National, a été inhumé dans le caveau où reposent ses parents, dans le cimetière situé tout près de l'église de la Trinité-sur-Mer. La cérémonie dans l'église s'est déroulée dans la plus stricte intimité familiale, mais à l'extérieur, plusieurs dizaines de personnes ont accompagné Jean-Marie Le Pen jusqu'à sa dernière demeure.
Je viens aujourd'hui rendre hommage et aux militaires et à l'homme politique. 60 ans d'engagement politique. Quelqu'un qui est resté droit dans ses bottes.
C'est un personnage de la ville. On a toujours entendu que Jean-Marie Le Pen était né ici. On peut avoir pas du tout les mêmes idées, puis respecter un défunt. C'était un papa, un grand-père. Bon, ben voilà.
Il représentait beaucoup de choses pour moi. Le courage français aujourd'hui, une sorte de résistance.
Et ajoutons qu'une autre cérémonie aura lieu jeudi prochain à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris. Une messe qui sera cette fois ouverte au public. Dans l'actualité de ce dimanche midi également, cet accident entre deux tramways. Ça s'est passé à Strasbourg la nuit dernière. Les véhicules sont entrés en collision pour une raison encore indéterminée. Le bilan fait état d'une trentaine de blessés. Écoutez Emmanuel Honneau, c'est le directeur général de la compagnie des transports strasbourgeois.
Il y a eu des manifestations sur Homme de fer dans le secteur et que donc il fallait réorganiser et mettre en attente un certain nombre de rames et il y avait un embouteillage et cette rame a été bloquée au milieu de la trémie. Les freins apparemment, on ne sait pas pourquoi, erreur humaine, problème matériel, tout ça c'est à vérifier, n'a pas réussi à rester bloqué et donc s'est mis à reculer.
Et une trentaine de personnes ont donc été blessées. Quelques mots de l'actualité à l'étranger. Aux États-Unis, les feux ravagent toujours différentes zones autour de Los Angeles en Californie. Le bilan provisoire de ces incendies qui sont pour la plupart hors de contrôle, font état de 11 morts, de plus de 10 000 maisons et bâtiments détruits et de 14 000 hectares de végétation détruits. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été évacuées de zones fortement peuplées. Un couvre-feu est en vigueur entre 18h et 6h du matin. Et puis en Ukraine, on a appris ce matin que les services secrets ukrainiens interrogent depuis plusieurs heures maintenant deux soldats nord-coréens qui ont été faits prisonniers. Les deux hommes ont été transférés à Kiev. Selon les autorités ukrainiennes, 10 000 soldats nord-coréen aurait rejoint les troupes russes pour tenter de reconquérir la région frontalière de Koursk. Il est midi et 20 minutes, une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, toute l'actualité sportive.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, retrouvez toute la magie du groupe Pink Floyd le temps d'une soirée unique. Another Pink Experience met un point d'honneur à interpréter fidèlement les immenses compositions telles que Dark Side of the Moon, Comfortably Numb, Wish You Were There, The Wall et bien d'autres encore. 8 musiciens, chanteurs et chanteuses pour offrir aux fans inconditionnels de Pink Floyd l'occasion de revivre durant 2 heures leur univers musical. Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Billetterie sur ticket.nc. Pré-vente 2600 francs, sur place 3000 francs.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Toute l'actualité sportive, on va retrouver Lionel Sabot et Michael Geneschi après avoir salué notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et retrouvons donc Michael Geneschi et Lionel Sabot. On va commencer avec le tennis à la une de l'actualité sportive. C'est parti pour l'Open d'Australie. C'est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Pas moins de 7 Français sont engagés à Melbourne ce dimanche, Michael.
Exactement. On va commencer par le tableau messieurs avec Hugo Gaston qui ouvre le bal. Il affronte en ce moment même l'Australien Omar Yasika qui a bénéficié d'une wild card. Ça se passe bien pour le tricolore. Il a déjà gagné le premier set, 6-2. Également sur les courts en ce moment même, Arthur Fils contre le Finlandais Otto Virtanen. On est encore dans la toute première manche. Cet après-midi, pas avant 13h, Quentin Alice fera lui face à l'Australien Adam Walton. Et en fin de journée, Hugo Humbert affrontera l'Italien Matteo Gigante. Ce soir, pour le vétéran Lucas Pouille, ce sera tout de suite un gros morceau, l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 2. Dans le tableau féminin maintenant, Diane Parry débutera elle son tournoi cet après-midi. Ce sera face à la Croate Donna Vekic. De son côté, Chloé Paquet retrouvera l'Espagnole Cristina Buccia. Côté tête de série, notez qu'il y aura déjà une belle affiche ce soir à Melbourne entre la Bélarusse Arina Sabalenka, double tenante du titre en Australie, et l'Américaine Sloane Stephens pour animer cette première nocturne à la Rod Laver Arena dans cet Open d'Australie.
On passe au rugby, Michael, avec la 3e journée de la Champions Cup et 4 équipes du top 14 étaient engagées aujourd'hui.
Ouais, le Stade Toulousain qui a tenu son rang chez les Sharks sud-africains. Un choc qui a tourné court, hein. Même au pays des Springboks, Toulouse a été intraitable, un large succès, 20-8. Toutefois, les Toulousains ont commis des erreurs qui les ont privés du bonus offensif. C'est ce que regrette notamment le coach de Toulouse, Hugo Mola.
Ce qui me gêne, c'est qu'on a eu l'opportunité de tuer le match, on a eu l'opportunité de prendre le bonus, on a eu l'opportunité de marquer des essais et on n'en a pas beaucoup marqué. Donc ça, c'est gênant. On se rend compte que dans les moments clés, on a manqué peut-être un peu de simplicité.
En effet, une victoire, oui, mais dans le même temps, également pour le compte de la poule A, la même poule que Toulouse, eh bien, l'Union Bordeaux-Bègles est allée décrocher une large victoire chez les Anglais d'Exeter, 69-17. Conséquence, c'est l'UBB qui prend la tête de cette poule. Autre club français engagé aujourd'hui, le Stade français qui a battu les Anglais de Northampton, pourtant leader de la poule C. Victoire des Français 45-35. Et puis Castres l'a emporté sur les Sud-Africains des Blue Bulls, 49-10. Ce soir, notez que Toulon recevra les Harlequins à partir de minuit. La Rochelle retrouvera le Leinster, ça ce sera à partir de 2h15. Et puis demain matin, Clermont se dépassera à Bath. Coup d'envoi de la rencontre à 4h30 pour nous.
Venons-en au football avec la 17e journée du championnat de France de Ligue 1 et l'Olympique de Marseille qui a fait une bonne opération au classement.
Marseille qui s'est imposé à Rennes sur le score de 2-1 grâce à ses réalisations de Greenwood et Rabiot pour répondre au premier but du Rennais Kalimou Mwendo en fin de première période. L'OM conforte ainsi sa deuxième place dans le classement après les faux pas de ses principaux poursuivants hier. Monaco tenu en échec à Nantes, 2-2 et Lille à Auxerre, 0-0. Marseille qui prend 5 points d'avance sur les Monégasques, deuxième du championnat de France, et qui revient à 4 longueurs du Paris Saint-Germain qui jouera demain contre Saint-Étienne. Les autres résultats du jour, Nice l'a emporté à Reims 4-2 pour se rapprocher du podium, à l'inverse de Lyon. Lyon qui s'est incliné à Brest 2-1. Les Lyonnais, eux, reculent en 6e position dans le classement.
Football encore, comme tous les dimanches midi, on fait un tour d'Europe du ballon.
En Italie tout d'abord, la Juventus de Turin qui a calé contre Torino, 1-0 et pas mieux pour le Milan AC face à Cagliari, score de parité, 1-0. Encore un nul hier entre la Lazio de Rome et Côme, 1-0. En Angleterre, la suite de la Cup et les Reds de Liverpool qui ont disposé facilement d'Accrington Stanley, club de 4e division, 4-0. Victoire encore d'Aston Villa sur West Ham, 2-1. Demain, Arsenal affrontera Manchester United. En Allemagne, au lendemain du succès du Bayer Leverkusen sur le Borussia Dortmund 3-2, le Bayern Munich s'est imposé sur la plus petite des marques face au Borussia Mönchengladbach, 1-0 grâce à un but d'Harry Kane sur penalty pour offrir la victoire au leader de la Bundesliga. Enfin, en Espagne, le duel entre le FC Séville et Valence s'est soldé par un nul, 1-0. On aura droit demain au grand classico en finale de la Supercoupe d'Espagne. L'affiche FC Barcelone-Real Madrid, ce sera à suivre à partir de 6h pour nous.
Allez, on passe au sport d'hiver et les Français qui s'imposent en ski alpin et en biathlon.
Oui, en biathlon tout d'abord. Encore une victoire lors de l'étape de la Coupe du Monde à Oberhof pour les Français sur la poursuite féminine. C'est Lou Jean Monod qui s'est imposé pour continuer sur le bel élan des tricolores. Pour le moment, ils ont signé un succès à chaque journée à Oberhof. En revanche, pas de podium chez les messieurs. Derrière le triplé norvégien, Quentin Fillon-Maillet s'est classé 4e. Et puis en ski alpin, Clément Noël a quant à lui remporté le slalom d'Adelboden lors de l'étape de la Coupe du Monde en Suisse. C'est tout de même son 3e succès déjà depuis le début de la saison.
On passe à la voile, Mickaël. La ligne d'arrivée se rapproche doucement mais sûrement pour les leaders du Vendée Globe.
Ouais, lancé dans une lutte sans merci jusqu'au bout, Charlie Dalin va tenter de conserver son avantage sur Johan Richom. Dalin à bord de Massif qui a mis les bouchées doubles pour faire tomber le record du Tour du Monde en solitaire sans escale et sans assistance. Il est à 1500 km de la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, toujours dans l'océan Atlantique avec un petit matelas d'avance de 250 km sur Johan Richom à bord de Paprec Arkea. Alors les experts estiment que les deux premiers navigateurs pourraient franchir la ligne d'arrivée entre mardi et mercredi pour nous. Nous en sommes pour le moment à 62 jours et 13 heures de course. Je rappelle que le record est toujours, et donc pour quelques jours encore, on le suppose, dans les mains d'Armel Lecléache. Il l'avait emporté en 2017 en 74 jours d'épreuve. Un temps qui pourrait être amélioré de quasiment 10 jours si Charlie Dalin garde ce rythme jusqu'au bout.
Après la mer, le désert, le Dakar 2025 avec les pilotes qui disputaient la 6e étape.
Ouais, la 2e semaine d'épreuve qui s'est ouverte sur les pistes d'Arabie Saoudite. Et dans la catégorie moto, le Français Adrien Van Beveren, vainqueur de l'étape avant la journée de repos, a réussi à limiter la casse au guidon de sa Honda. En tant qu'ouvreur, il a réussi à terminer 2e juste derrière l'Américain Ricky Brabec. Une belle performance pour Adrien Van Beveren.
Grosse journée, top, super boulot, navigation de fou, tout seul toute la journée. Luciano il m'a pris à là, 5 km de l'arrivée dans les dunes. J'essaie d'assurer la bonne nave, les trouver les pistes, les caps. C'était pas évident, mais ouais, c'était bien.
Adrien Van Beveren qui se trouve 3e du classement général derrière l'Australien Daniel Sanders sur KTM et Brabec également sur Honda. Et puis dans la catégorie auto, c'est le Belge Guillaume de Mévius sur Mini qui a remporté cette 6e étape devant son coéquipier portugais João Ferreira. Le Sud-Africain Henk Lategan, il faut essayer de bien le dire, s'il remporte ce Dakar, il est toujours leader du classement général au volant de sa Toyota.